Bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, c'est donc moi qui ai la charge d'apporter la parole de Dieu, de pouvoir nous exhorter ensemble au travers de cet enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 5. On va lire une histoire un peu particulière de la parole de Dieu. Une guérison d'un homme paralysé, d'un homme malade. On va lire le passage à partir du verset 1. Jean 5 et le verset 1. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat !» Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture. Il y a dans ce passage des choses vraiment particulières. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je lis ce passage et encore quand je préparais ces moments, cette histoire est vraiment particulière. Déjà, le fait qui nous est rapporté, le fait qu'un ange descendait dans une piscine, touchait l'eau. Ce matin, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas essayer de rentrer, de vous donner une explication par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on a bien plus qu'un ange. On a Jésus, le Saint-Esprit qui est en nous. Et cette histoire-là est une histoire peut-être particulière, peut-être énigmatique de la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Moi, ce matin, ce que je voudrais sur le sujet sur lequel j'aimerais nous attarder, c'est... avant de rentrer vraiment en profondeur dans ce texte, c'est de savoir, est-ce que vous savez que Dieu veut vous bénir? Est-ce que vous savez ça? Dieu veut vous bénir. Vous savez ce que ça veut dire, bénir? Faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut vous faire du bien. Amen? Je m'attendais à un amen un peu plus... merci Seigneur. Oui, le Seigneur veut nous faire du bien. Et je crois que ce matin, j'ai vraiment à cœur de pouvoir qu'on puisse ressortir de ce lieu en comprenant que Dieu veut nous bénir et que Dieu veut nous faire du bien. Que Dieu veut nous visiter. On voit cet homme, on va prendre l'exemple de cet homme qui pendant 38 ans a été malade, infirme. Et Dieu va lui poser cette question, veux-tu être guéri ? C'est quand même particulier, des fois le Seigneur Jésus, c'est parce que c'est marqué dans la parole de Dieu et que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité et que nous savons que le Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'avoir ce tact pour dire, mais est-ce que tu veux être guéri? C'est comme si vous rencontriez quelqu'un, un paralytique, qui est là, alité sur son lit depuis des années et des années. Et la première question que tu lui poses, c'est, est-ce que tu veux être guéri? C'est quand même audacieux de la part du Seigneur Jésus. Mais ce matin, j'aimerais te poser cette question-là. Du coup, est-ce que tu veux être béni? Le Seigneur Jésus veut nous bénir, mais est-ce que tu veux être béni? Et ce matin, le sujet principal de ma prédication, c'est vraiment cette question-là. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie? Et nous allons voir trois choses qui peuvent empêcher que Dieu puisse accomplir cette bénédiction dans ta vie. Dieu veut te bénir. Ça, c'est une vérité. Quand on regarde le pourquoi Jésus est venu sur cette terre, pourquoi il a accepté de souffrir, on sait que Jésus nous aime. On sait que Dieu t'aime. On sait que vraiment, le Seigneur Jésus veut te bénir. Mais alors pourquoi, et vous serez d'accord avec moi que bien des fois dans notre vie, on a cette frustration, bien des fois on a cette interrogation en disant « Mais ok, Dieu veut me bénir, mais pourtant je passe par tellement de choses difficiles, ou pourtant il y a tellement de choses dans ma vie qui ne montrent pas que Dieu veut me bénir. » Ou du moins, la bénédiction qui est celle que moi j'attends, je ne la vois pas. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter sur trois choses qui peuvent nous empêcher d'être béni. Je ne dis pas que c'est seulement les trois choses qu'il y a, je ne dis pas que toutes sont vraies pour toi, mais je crois que c'est des choses qui peuvent être de façon générale, à un moment donné, être un obstacle pour la bénédiction de Dieu. Et la première que j'aimerais prendre, c'est la réponse que cet homme va faire à Jésus. Jésus lui demande, veux-tu être béni ? Veux-tu être guéri, pardon ? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, et quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Devant la bénédiction que Dieu va lui proposer, cet homme va montrer ses limites et ses faiblesses. Il va montrer ce que lui, il n'est pas capable de faire. Il va dire, mais voilà, moi, je ne suis pas capable de descendre en premier dans cette piscine. Tu vois mon état, la seule moyen d'être béni, c'est de pouvoir me jeter dans cette eau-là. Mais je ne suis pas capable de le faire. Et il va afficher cette limite en lui disant, mais moi, par moi-même, par mes propres efforts, je ne peux pas être béni. Je ne peux pas obtenir cette guérison. Et le premier obstacle que j'aimerais mettre en avant, c'est toi. Toi, tu peux être un obstacle à la bénédiction que Dieu veut pour ta vie. Tout simplement parce que quand Dieu va te donner quelque chose, tu vas dire, non, mais moi, je ne peux pas par mes propres forces. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Moi, je ne peux pas accéder à cela. Et tu vas rétorquer au Seigneur ta limite et ta faiblesse. Il y a un personnage qu'on connaît bien dans la parole de Dieu qui a fait ça au Seigneur Jésus quand il a été visité, c'est Gédéon. Oh, vaillant héros ! Moi, vaillant héros ? Non, mais moi, je suis le plus petit de la plus petite tribu, je suis la plus petite famille, je suis le plus petit. Il va afficher sa limite au Seigneur Jésus. À cette visitation, il va lui montrer, mais dire, mais moi, je ne peux pas. Et il va vraiment afficher, montrer sa limite. Et il va rétorquer cela au Seigneur. Mais si Gédéon a été resté et il s'était persuadé qu'il n'était pas capable d'accomplir ce que Dieu voulait pour lui, il ne serait pas rentré dans les plans de Dieu. Et lui-même aurait été un obstacle pour la bénédiction de Dieu. Et je crois que dans notre vie, bien des fois, Nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à qui nous sommes, nous regardons à peut-être ce que nous avons déjà accompli et les échecs que nous avons eus. Et quand le Seigneur Jésus nous propose d'aller plus loin ou nous amène sur un domaine peut-être que nous ne maîtrisons pas ou que nous avons tellement failli des fois que nous allons dire au Seigneur, mais Seigneur, t'as vu tout mon passé, t'as vu tout ce que j'ai déjà accompli. Et nous allons présenter comme une feuille de route au Seigneur en disant, mais écoute, moi, c'est pas possible. Oui, je sais que tu fais ça, je sais que tu es capable d'agir, mais pas avec moi. Parce qu'il y a trop de ceci, cela, et c'est comme si tu allais étaler ton CV d'échecs et de faiblesses au Seigneur. Le Seigneur Jésus sait que nous sommes faibles. Le Seigneur Jésus savait très bien que cet homme ne pouvait pas se jeter par lui-même dans la piscine. Cet homme-là ne pouvait pas, de par sa situation, accéder à la bénédiction qui était devant lui. Et bien des fois, nous sommes de la même manière, nous avons le même raisonnement. Et ces raisonnements-là peuvent nous empêcher de rentrer dans la bénédiction que Dieu veut pour nous. Avec le Seigneur Jésus, nous voyons combien les choses peuvent être extrêmement simples. Mais l'homme aime bien compliquer les choses. Le Seigneur Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, Seigneur, d'accord, ok, c'est vrai, tu as dit ça, mais est-ce que... Et on va commencer à raisonner et à se dire, oui, d'accord, mais ça c'est bon, mais est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour un autre temps? Est-ce que c'était pas bon pour mon frère ou ma soeur, mais est-ce que pour moi c'est vraiment ça? Donc le toi peut vraiment être un obstacle pour que tu puisses vraiment rentrer dans ce plan que le Seigneur a pour toi, dans cette bénédiction qu'il veut te donner. On va continuer pour voir une deuxième opposition, et cette fois on va aller dans Deux Rois. 2 Rois, au chapitre 5, il y a une histoire bien particulière aussi. On va pas tout lire, on va juste lire à partir du verset 9, les 3-4 versets qui nous intéressent. Mais là, c'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée de Syrie. Cet homme-là était lépreux. Cet homme-là était lépreux et de par sa maladie, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait être exclu. Et il y a une petite fille qui va lui dire, écoute, moi je connais un prophète. Si tu vas le voir, il peut te guérir. Donc cet homme va faire l'effort, à partir du verset 9, il nous est dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. C'était le prophète de l'époque. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Donc on en revient, le Seigneur te dit, « Tu veux être béni ? Tu veux être béni ? » C'est pas compliqué, il y a ça à faire. Peu importe ce que le Seigneur te dit de faire, peu importe la façon dont le Seigneur te parle, peu importe ce que le Seigneur te dit qu'il faut que tu changes dans ta vie. Le verset 11 nous dit, Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Et il tourna le dos et il partait plein de colère. On s'arrête là. Ce Syrien, habitué aux honneurs, habitué à peut-être un certain standing, il s'était fait son plan. Si vraiment c'est un homme de Dieu, si vraiment c'est un prophète, les choses vont se faire de telle et telle manière. Il va sortir, il va agiter sa main, il va poser la main sur la plaie, là où j'ai mal, et il va toucher ma lèpre et je vais être guéri. Et là, il m'envoie faire quoi ? Me laver 7 fois dans le Jourdain. En Syrie, il y avait des fleuves qui étaient vraiment mieux que le Jourdain quand même. Hein. Le Jourdain, ce n'est pas le meilleur fleuve qui est sur terre. Ce n'est pas le plus joli. Mais cet homme-là avait mis un obstacle à la bénédiction. Et cet obstacle-là, on le retrouve aussi dans cette histoire du paralytique à Bethesda. C'est la religion. La religion. Alors, ça n'a pas été un obstacle pour lui. Mais vous voyez, le Jean 5, verset 10, il nous a dit que c'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Cette réaction des juifs est terrible. C'était les chefs religieux de l'époque. Et au lieu de se réjouir de la guérison de cet homme-là, qui était quelque chose d'extraordinaire, ils vont dire, mais la loi t'interdit d'être guéri le dimanche, ou le samedi, le sabbat. Et quand j'ai pensé à ce test, quand j'ai prié pour cela, il y a vraiment cette image de notre religion que nous tenons des fois précieusement dans notre cœur et qui nous empêche de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Si ce matin le Seigneur avait permis que le culte soit perturbé parce que pour X raisons, imaginez que là, pendant que je prêche, quelqu'un rentre et parce qu'il réclame la bénédiction et que finalement il y a un malade, deux malades, trois malades qui viennent et qui nous empêchent d'avoir une prédication comme on a ce matin, comme on a l'habitude d'avoir tous les dimanches, est-ce que vous serez indigné parce que vous n'avez pas pu avoir votre petite prédication, votre culte, votre habitude ? Peut-être que les chants ne s'étaient pas déroulés comme il fallait d'habitude. Ou est-ce que vous vous réjouirez de ce que des malades puissent s'approcher, puissent venir dans la maison de Dieu ? Et combien de fois, là l'exemple est flagrant pour nous, même ça nous choque de nous dire, mais nous on aspire à ce que des malades soient guéris, et on voit ces juifs qui étaient choqués de ce qu'ils aient eu une guérison le jour du sabbat. Mais combien de fois dans nos cœurs, nos habitudes, notre religiosité, notre façon de faire, ah oui, on a toujours fait comme ça, c'est depuis toujours, on fait comme ça, ben c'est comme ça, on fait comme ça. On peut même sortir des versets, vous savez, des versets, mais il faut que tout soit fait avec ordre et bienséance. Alors c'est une vérité, bien sûr, on va pas faire du jour au lendemain n'importe quoi dans l'église. Il faut de l'ordre et de la bienséance. Mais est-ce que l'ordre et la bienséance, des fois, n'empêchent pas l'action du Saint-Esprit dans nos vies? J'ai toujours fait les choses comme ça. Il faut que les choses se fassent de telle et telle manière. Et des fois, nous devenons tellement religieux. Nous devenons tellement religieux par nos habitudes et nos pratiques. Et combien de fois la bénédiction de l'Éternel peut être empêchée à cause de notre religiosité? On va prendre un exemple des fois tout simple. Le dimanche matin, une des habitudes qu'on a prises, je ne dis pas que c'est une mauvaise habitude, attention, hein. Mais la première personne qui va prier dans l'église, c'est souvent le pasteur. Et tant que le pasteur n'a pas prié, je ne vais pas prier. C'est des habitudes qu'on prend. Ou alors, si un tel a prié, moi je ne peux pas prier après. Ou j'ai tellement l'habitude de faire ça, mais pourquoi je vais changer? Mais si demain le Seigneur nous transforme, si demain quand on arrive, l'Esprit nous saisit et qu'au lieu de passer un culte à la louange, à écouter la prédication, parce qu'il y a un esprit de prière, on se met à prier et pendant 2 heures nous passons un temps de prière, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait choquant pour vous? Vous inquiétez pas, je ne vais pas révolutionner l'Église. Je ne suis pas là pour ça ce matin. C'est juste pour essayer d'éveiller nos consciences. Dans nos vies personnelles, ce n'est pas seulement à l'église, mais dans nos vies personnelles, des fois nous avons tellement l'habitude de faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que nous laissons la liberté au Saint-Esprit de pouvoir venir modifier notre quotidien? Est-ce que nous laissons la possibilité à l'Esprit de venir changer nos habitudes, de changer peut-être notre façon de faire? Et peut-être que nos habitudes qui peuvent être excellentes. Peut-être que le Seigneur a besoin de modifier ton quotidien, de modifier ce que tu fais tous les jours d'une façon religieuse, et tu t'y appliques et tu mets ton cœur. Mais tu vas plus te confier dans tes efforts et dans ce que tu fais que dans vraiment ce que le Seigneur, que de te confier dans le Seigneur. Et je crois que c'est important de nous rappeler ces choses-là. De nous rappeler combien la religiosité peut nous empêcher de vraiment recevoir une bénédiction particulière du Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à comprendre cela, que dans notre cœur, il ne faut pas avoir un carcan droit et carré et ne pas sortir de cela. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile que d'avoir une ligne droite, un chemin tout tracé, bien droit, où on sait qu'on peut aller ni à gauche ni à droite, un peu, vous savez, comme quand on lance au bowling, on peut mettre les barrières sur les côtés, et quand on lance la boule, dans tous les cas, ça va toucher. C'est beaucoup plus facile. Et le Seigneur, des fois, permet que nous soyons mis dans un inconfort, que nous soyons chamboulés dans notre quotidien, pour justement peut-être nous faire percevoir les choses différemment. Les Juifs étaient tellement attachés à cette loi-là. En plus, quand on regarde, il n'y avait rien qui disait qu'un malade ne pouvait pas être guéri le jour du sabbat, pardon. C'était une interprétation de la loi qu'ils en faisaient. Ils étaient allés plus loin que la loi, pour se montrer encore plus spirituel, encore plus mieux. Bon, ça ne se dit pas, je sais. Mais c'est quelque chose d'important de comprendre, que dans notre vie, il ne s'agit pas simplement d'accomplir des actes religieux, mais c'est de vraiment avoir une relation personnelle, d'avoir quelque chose d'étroit avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le malade, il a dit, moi... On m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a simplement obéi au Seigneur Jésus. Il a pris son lit, il s'est levé, il a été guéri. Peu importe c'était qui, après on va voir qu'il va y avoir une deuxième rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais on dit, mais c'est qui t'a guéri? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme-là va vraiment vivre cette chose extraordinaire. D'expérimenter l'obéissance à la parole de Dieu. Et vraiment, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à cela. J'aimerais voir un autre point, on en sera tous d'accord avec celui-là. Le péché peut être un blocage pour la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais quand on parle du péché qui peut être une opposition dans ta vie, souvent on va penser à cet homme qui ne connaît pas Dieu, à cette femme qui est loin de Dieu et qui vit sa vie dans le monde, loin de la grâce, et qu'il fait ce qu'il veut. C'est une vérité. Ce matin, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur Jésus. On a au travers du texte, on a compris que le Seigneur Jésus, du texte de la Sainte-Seine, que le Seigneur Jésus nous avait libérés, nous avait affranchis pour la liberté, que son sacrifice, son sang a coulé pour nous, pour que nous puissions être lavés de notre péché. Ce matin, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Est-ce que tu as donné ta vie, entre ta vie appartient au Seigneur Jésus, tu lui as confié toute ta vie? Peut-être que ce matin, tu n'as pas encore confié ta vie au Seigneur. Mais le Seigneur te le rappelle encore une fois, il te donne cette grâce, cette possibilité d'être réconcilié avec lui et de te rappeler que le Seigneur Jésus t'aime et qu'il est mort sur la croix pour que tes péchés, tout ce qui est sale, tout ce qui t'empêche d'avancer, toutes ces choses-là, Dieu les a balayées, il les a vaincues à la croix. Et ce matin, il y a cette possibilité pour toi. Mais je ne veux pas m'adresser uniquement à quelqu'un qui n'aurait pas peut-être sa vie entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous adresser à nous qui marchons avec le Seigneur Jésus. Nous qui marchons avec le Seigneur Jésus. Le péché peut vraiment être un obstacle dans notre vie pour la bénédiction de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire littéralement, le péché, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. Et des fois, on a dans notre tête que des péchés qui peuvent être très grossiers, que ce soit le mensonge, que ce soit certaines désobéissances, l'adultère ou autre. Mais le péché, ce n'est pas uniquement des gros péchés comme ça, si on peut le nommer comme ça. Mais vous savez, il y a certaines choses, des fois, quand Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas. La désobéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a bien des fois, le péché peut être un lien qui nous tient. On utilise souvent cette image du péché comme une chaîne avec un boulet qui nous empêche d'avancer. Et dans notre vie, on peut trouver des fois des situations où on va se laisser lier par le péché. On va se laisser lier par la désobéissance. On va se laisser lier par des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a même des fois des choses que dans notre passé nous avions vaincues, que le Seigneur Jésus nous avait donné la victoire. Et on va se laisser rattraper parce qu'on n'a pas veillé. Et le péché peut vraiment être un obstacle à la bénédiction que l'Éternel veut mettre dans ta vie. Parce que, rappelez-vous, j'ai commencé comme cela, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut vraiment nous bénir. Il a des choses extraordinaires pour nous en réserve. Mais ça serait tellement dommage de passer à côté de ce que le Seigneur Jésus a pour nous à cause de certaines choses qu'on ne veut pas lâcher ou certaines choses qu'on a repris, qu'on avait laissé tomber, qu'on avait oublié. C'était notre vie passée, notre vie ancienne. Mais parce que l'ennemi est sournois, parce que l'ennemi est malin, parce que l'ennemi est patient et parce que nous, des fois, nous ne veillons pas comme il faut. Il y a des choses, ça c'était facile. J'en suis plus, je suis délivré de ces choses-là. Et puis petit à petit, on commence à tolérer certaines choses qu'on ne tolérait plus. Et petit à petit, on se laisse reprendre. Et des fois dans nos vies, c'est cela. Et c'est le danger aussi qui guette le chrétien. De se faire avoir tout à nouveau par peut-être de certains anciens péchés. J'ai juste avant, un des textes qui parle avant, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, c'est une rencontre aussi particulière. Jésus va être là, après une longue marche, assis au bord d'un puits, et il va parler à cette femme en lui disant « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Cette femme va être là « Mais toi, tu es juif et tu me parles. » Déjà, il parle à une femme, en plus à une samaritaine. Et Jésus va lui dire « Mais si tu savais qui je suis, si tu savais qui est-ce qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. » Elle va dire, mais tu n'as même pas de quoi puiser, comment tu veux me donner de l'eau? Et Jésus va lui dire, mais moi j'ai une eau à te donner, une eau encore plus excellente. Quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif, tu n'auras plus besoin. Elle va comprendre direct le besoin naturel, en disant, mais donne-moi cette eau que j'ai plus à venir au puits. Mais le Seigneur Jésus va lui faire comprendre que c'est plus que ça. Et pour lui faire comprendre plus que c'est plus que ça, il va l'amener sur son péché. Il va lui dire, appelle ton mari. appelle ton mari. Et vous savez, le Saint-Esprit agit de la même manière avec chacun d'entre nous. Quand on veut avancer, quand on veut progresser, quand il y a des choses dans nos vies qui, on prie, on est avec le Seigneur, on est sérieux dans notre cœur. Et le Saint-Esprit va venir mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et Jésus va appuyer à cette femme, il va dire, appelle-moi ton mari. Et quand on est dans cette situation, on a deux choix. Soit on fuit ce doigt qui met la vérité en lumière, soit on se repent sincèrement. Et cette femme va faire ce choix-là, elle va dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, tu as raison. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es en ce moment, ce n'est pas ton mari. Parce que Jésus, il est la vérité. Jésus est la vérité. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur Jésus, au travers de son esprit, veut faire la même chose dans nos vies. Il veut mettre en lumière ce qui ne va pas dans nos vies. Mais derrière, la bénédiction est extraordinaire parce que cette femme-là va tout de suite comprendre, son esprit va s'éveiller et elle va comprendre et sa vie va être sauvée. Mais non seulement sa vie, mais tout le village où il était. Parce que cette femme va commencer à répandre la nouvelle. Mais n'est-ce pas un prophète? N'est-ce pas le Messie, celui qu'on attendait? Il connaît toute ma vie. Et parce qu'il m'a révélé quelle était ma vie, il a révélé la vérité. Et est-ce que c'est pas ça? Et alors les gens vont venir, ils vont écouter Jésus. Ils vont même lui demander de rester. Il va rester pendant 2 jours. Au point qu'à la fin, les gens vont dire, non, c'est plus à cause de ton témoignage qu'on croit. C'est parce que nous aussi, on l'a rencontré et on croit. Et tout cela va être fait par cette mise en lumière de la vie de cette femme. Et dans notre vie, nous avons besoin de ça aussi. Pour que la bénédiction puisse couler, pour que vraiment nous puissions rentrer en profondeur avec le Seigneur, pour que vraiment le Seigneur Jésus puisse déverser des choses particulières dans vos vies. Peu importe que là où vous en êtes, peu importe depuis combien de temps vous marchez avec le Seigneur Jésus, là où vous en êtes avec lui, dans votre cheminement, le Seigneur Jésus veut vous bénir, il veut vous apporter des choses particulières. Et tout cela passe aussi par cette mise en lumière. Peut-être que tout va bien dans ta vie et gloire à Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas de péché dans ta vie, mais gloire à Dieu. Mais peut-être que cette parole, elle est peut-être que pour une seule personne, mais je devais vous la donner ce matin. Si tu as un péché dans ta vie, laisse le Seigneur le mettre en lumière. Et si dans ton cœur, là, tu sens ton cœur qui bat, si dans ta tête, tu sais très bien de quoi le Seigneur veut te dire, dans qu'est-ce que tu dois abandonner dans ta vie, le Seigneur Jésus n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous aimer. Il a condamné le péché, mais toi, il t'aime. Alors laisse le Seigneur Jésus vraiment travailler ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus enlever ce qui ne va pas. Et si tu t'es manqué, si à un moment tu t'es raté, demande pardon au Seigneur Jésus. On va juste lire ce psaume, je vous le donne. Psaume 32, c'est un psaume de David. Vous savez, quand David, le grand homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, va commettre un péché énorme. Il nous dit ceci, on va juste lire les 5 premiers versets. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas en compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. David avait vraiment péché. Et tant qu'il s'est tu, tant qu'il n'avait pas mis cette faute devant l'Éternel, tant qu'il n'y avait pas demandé pardon à l'Éternel, il nous est dit que son corps, il gémissait toute la journée. La main de l'Éternel était sur lui, son corps dépérissait. Mais quand il a avoué, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Mais quelle grâce, frères et sœurs, quelle grâce, parce que l'Éternel est fidèle, l'Éternel veut vraiment encore nous amener à cette vie vraiment de liberté en lui. Dieu veut bénir ta vie. Quel que soit ton besoin, Dieu veut te bénir. On aurait pu prendre d'autres obstacles. J'ai pensé au manque de pardon. J'ai pensé à la peur. J'ai pensé à la désobéissance. J'en ai parlé au travers du péché. Mais on aurait pu encore aller plus loin dans ces domaines. Il y a peut-être plusieurs domaines dans lesquels vraiment des choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. J'aimerais juste le manque de pardon. Insister un peu sur ça. Le manque de pardon. Vous savez que quand on ne donne pas le pardon à quelqu'un, quand on garde de la rancune dans notre cœur, c'est nous qui sommes liés. Et le fait d'accepter de donner le pardon, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire tout oublier, ça ne veut pas dire oublier l'offense ou le mal qu'on a eu, mais ça veut dire simplement que tu te libères de ça. Seigneur Jésus, moi, je n'ai peut-être pas la force de pardonner cette personne. Mais je te demande de l'aide. Aide-moi à pardonner, parce que j'en ai marre que cela me ronge au fond de moi. J'en ai marre d'être tenu par ce manque de pardon, par cette aigreur que j'ai quand je vois la personne, quand j'y repense, quand je vois tout le mal qu'elle m'a fait. Le manque de pardon tient vraiment lié et empêche que tu puisses rentrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Empêche que tu puisses aller plus loin. J'avais vraiment repensé aussi, en préparant ces moments, je lisais le passage d'Ézéchiel. Vous savez, quand il est parlé quand il fait toute cette description du temple, et au bout d'un moment, il va voir cette rivière. Le Seigneur va lui dire, il va mesurer, il va avancer en pleine eau. D'abord de l'eau à la cheville, après de l'eau au genou, puis de l'eau à la taille, et puis un grand torrent qu'il ne pouvait pas traverser, tellement le torrent était puissant. Et c'est vraiment aussi cette image-là de notre progression spirituelle avec le Seigneur. Il nous faut avancer en plein eau, jusqu'à ce que nous soyons débordés par l'Esprit, et que l'Esprit prenne tout le contrôle de nos vies. Mais il y a des fois des choses qui t'empêchent. Si tu veux avancer, et que derrière il y a une corde qui te tient attachée, tu n'iras pas loin. Tu vas te débattre, tu vas utiliser de l'énergie, de la force, de tes propres forces. Et tu vas te décourager parce que tu vas te dire « Mais je fais tous les efforts possibles et inimaginables et je n'avance pas. » Mais tu as besoin de confier ta vie au Seigneur Jésus. Et je vais terminer avec ça parce que dans notre texte d'introduction, quand nous voyons cet homme-là, après avoir fait tout ce raisonnement « Mais je ne peux pas, personne ne peut me jeter dans la piscine. » Dieu va lui donner une parole et cet homme va obéir. Tout de suite. Et ce matin, je voudrais aussi t'encourager que ce qui peut être un blocage pour toi, que ce soit à ta propre personne, que ce soit à ta religiosité, que ce soit à ton péché, tout peut être réglé en plaçant ta foi en Jésus, en plaçant ta confiance dans le Seigneur Jésus qui a tout accompli. Bien des fois, quand nous sommes mis face à nos faiblesses, nous ne savons pas comment réagir. Mais nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Lui a tout accompli. Et si tu ne sais pas comment faire, si tu n'arrives pas à sortir de ton péché, si tu n'arrives pas à sortir de tes carcans religieux, si tu n'arrives pas à te défaire de ta timidité, comme il a été dit ce matin, de ta propre personne, de ton toi, parce que quand tu regardes à tes faiblesses, crie à l'Éternel. Tourne tes regards vers Jésus. Crie-lui, dis-lui, avoue ta faiblesse, avoue ton péché, avoue ton manquement. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes changer ma vie. J'ai besoin que tu enlèves ça. Tu vois ce péché avec lequel je me débat. Tu vois, Père éternel, ces faiblesses que je mets toujours devant mes yeux. Toutes ces excuses que je sors de moi en disant, mais tu vois comment je suis, tu vois comment je suis. Mets-les devant l'Éternel. Tu dis, écoute, Seigneur, moi, j'y arrive pas. Mais je sais qu'en toi, je peux y arriver. C'est dans mes faiblesses qu'il se glorifie. Dieu veut agir dans ta vie et Dieu veut te bénir. Alors vraiment que tu puisses garder cette parole et te dire que tout comme ces différents hommes que nous avons vus, que ce soit cet homme-là, que ce soit Gédéon, que ce soit Naaman, parce que Naaman, on n'a pas lu la suite de l'histoire, mais Naaman a accepté. Il a accepté cette parole, il a accepté que ce soit comme cela qu'il puisse avoir la bénédiction. Et Naaman a eu la bénédiction. Naaman a eu la bénédiction. Et dans ta vie, pareil, le Seigneur veut te bénir. Ces hommes-là ont accepté de croire dans la parole qui leur avait été donnée. Et toi ? Et toi ? Est-ce que tu crois ? Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es un Dieu extraordinaire. Je te bénis, Père éternel, parce que tu es vraiment un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux et un Dieu qui est rempli d'amour. Père éternel, je te bénis parce que vraiment, c'est un Dieu. Nous le voyons au travers de ces textes, au travers de toute ta parole. Tu désires vraiment nous bénir. Mais mon Dieu, mon roi, c'est vrai, combien de fois nous avons mis des choses entre toi et la bénédiction que tu avais pour nous. Ce matin, je veux vraiment encore te demander pardon pour toutes ces fois, c'est un Dieu qui, dans nos vies, ou même nous en tant que responsables, nous avons empêché la bénédiction d'agir. Père éternel, je te prie, mon Dieu, mon roi, encore de venir parler au cœur ce matin, de pouvoir encore prendre ce temps, Père éternel, de venir parler, de mettre le doigt là où il faut, et de venir consoler, Saint-Dieu, de venir entourer par tes bras d'amour, parce que nous savons que quand tu poses ta main sur nous, ce n'est pas un doigt de jugement et de condamnation, mais c'est vraiment des bras d'amour qui nous entourent et qui nous fait comprendre que tu as mieux pour nous. Père éternel, je veux vraiment encore te demander ta grâce ce matin. Je veux vraiment te demander ta bénédiction sur notre assemblée, Jésus. Tu connais chaque personne qui est ici dans ce lieu ce matin. Et je te prie pour chacune d'elles, afin que vraiment ta grâce, ta bénédiction soit sur chacune d'elles. Bénis chaque personne ici, Seigneur. Vraiment, nous te remercions, Père, pour l'action de ton esprit. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que vraiment, Saint-Dieu, tu vas agir encore. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen.